Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Anti-héros, c'est l'un des nouveaux titres de Taylor Swift, tiré de l'album Midnights. Anti-héros, il ne faut pas y voir un message caché contre l'une des bêtes noires de l'artiste, le rappeur Kanye West, autre star planétaire dont l'étoile pâlit depuis quelques mois, à la différence de celle de Taylor Swift au firmament de la pop. Jeudi soir, le rappeur a encore frappé en affichant son amour pour Hitler dans l'émission d'un complotiste notoire aux États-Unis. Le visage caché par une cagoule noire, nous devons arrêter d'insulter les nazis en permanence. Une déclaration qui a incité une nouvelle marque à se détourner de lui, le réseau social Parler. Quand Swift s'élève, West s'enfonce. Swift, West, deux destins divergents. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos.
Si t'as raison, moi je te dis que ces plats sont pas à lui.
Eh ben,
elles sont pas à toi non plus.
Eh ben non.
Eh ben ça va.
Eh ben
alors ça va. Point final.
Eh ben elles sont pas à lui.
Elles sont à TF1.
Non. Oui, oui, elles sont
à TF1.
Oui, mais je les avais commandées d'abord.
Ils ne partiront pas en vacances ensemble. Je ne parle pas de Thierry Roland et de Jean-Michel Larquet, mais de Kanye West et de Taylor Swift. Entre eux, c'est du sérieux et ça date depuis un moment déjà. Comme ici en 2009, lors des MTV Awards.
Le clash entre la chanteuse Taylor Swift et le rappeur Kanye West va-t-il s'arrêter un jour ? Tout avait commencé en 2009, lors de la 17e édition des MTV Music Video Awards. Le rappeur était monté sur scène pour interrompre Taylor Swift alors qu'elle venait d'être récompensée pour le meilleur clip de l'année.
Il avait lancé dans un mélange de Viva et de huées sous les yeux médusés de la jeune femme. « Taylor, je suis vraiment content pour toi et je vais te laisser finir, mais Beyoncé avait le meilleur clip de tous les temps. » Les excuses répétées de Kanye n'y changeront rien et cela n'empêchera nullement la jeune artiste de connaître une carrière phénoménale. Bonjour Cécilia Delporte.
Bonjour.
Alors, je ne sais pas si j'interview la journaliste des Échos Weekend ou la fan de Taylor Swift, sans doute un petit peu des deux.
Tout à fait, un peu des deux.
Kanye West et Taylor Swift, c'est comme le feu et la glace.
La carrière de Taylor Swift est vraiment passionnante à suivre sur plein d'aspects qui touchent à la musique, à la société, au marketing, mais aussi à travers sa relation qui a été très mouvementée, donc avec le rappeur Kanye West, et qui s'est déroulée en plusieurs temps. En 2009, elle est âgée de seulement 19 ans quand elle est récompensée pour le clip de l'année au MTV Video Music Awards, c'est une cérémonie très prestigieuse aux États-Unis. Et c'est alors que, en fait, le rappeur Kanye West, il monte sur scène, il lui vole le prix des mains et il lance devant le monde entier « Taylor, je vais te laisser finir, mais Beyoncé avait une des meilleures vidéos de tous les temps ». Gros scandale aux États-Unis. Et donc, à partir de là, en fait, leurs carrières, elles vont se croiser à plusieurs reprises. Bon, Kanye West, entre-temps, il s'est excusé. Les tensions s'étaient un petit peu apaisées. Et en 2016, Kanye West, il revient à la charge. Et en gros, il se vante dans son morceau « Famous » d'avoir rendu Taylor Swift célèbre par justement cet éclat télévisé de 2009. Donc Taylor Swift, elle s'insurge, mais là, Kim Kardashian, donc l'épouse du rappeur, révèle un enregistrement téléphonique prouvant que la chanteuse était bel et bien au courant de cette chanson et qu'elle avait donné son aval. Taylor Swift dit que c'est complètement faux. Bref, un soap opéra. Et depuis, du coup, la guerre est à nouveau déclarée. Et Taylor Swift, justement, a visé Kanye West dans plusieurs de ses morceaux où elle explique lui en vouloir encore.
I made that bitch famous. Et petite traduction pour comprendre aussi la colère de Taylor Swift. J'ai l'impression que Taylor et moi pourrions coucher ensemble. J'ai rendu cette garce célèbre. West se défend en évoquant la pression de ses managers. On ne parle pas seulement ici de musique, de talent artistique, mais surtout d'argent. On y reviendra. Kanye West et Taylor Swift sont au cœur de l'actualité depuis la rentrée, mais pas pour les mêmes raisons. L'un pour ses propos scandaleux, l'autre pour ses succès. À commencer pour Taylor par celui de son nouvel album Midnight.
La sortie de Midnight, c'était le 21 octobre dernier. Ça a suscité un véritable raz-de-marée, provoquant à la sortie des pannes sur les plateformes de streaming. Bon, en gros, pour résumer les nombreux records de Midnight, Taylor Swift elle a placé 10 chansons de son nouvel album aux 10 premières places du Billboard américain. C'est la première fois qu'un artiste réalise un tel exploit depuis la création du Billboard. C'est pour dire l'impact qu'a eu Midnight. Aux États-Unis, c'est aussi le plus important démarrage d'un album depuis 7 ans. Et elle a écoulé plus de 1,5 million d'albums en une semaine là-bas. Autre exploit sur Spotify, où Midnight est devenu l'album le plus écouté en une seule journée. Et Taylor Swift, elle a aussi battu le record de l'artiste le plus écouté, donc artiste féminin et masculin, le plus écouté en une seule journée dans l'histoire de la plateforme.
C'est la consécration pour une artiste qui ne cesse de confirmer depuis plus de 12 ans.
En fait, la carrière de Taylor Swift, elle est impressionnante par sa longévité. Alors finalement, on ne la connaît pas tellement, Taylor Swift, en France, parce qu'elle a mis du temps à s'imposer sur ce marché-là. Mais aux États-Unis, c'est vraiment une énorme superstar. Et donc, sa carrière, elle est impressionnante parce que Taylor Swift, elle a la capacité de sans cesse se renouveler. L'un des exemples les plus parlants n'est autre que son album Folklore, qui a été couronné au Grammy. C'est un disque à l'inspiration folk. Taylor Swift, au départ, elle vient de la country, elle a basculé vers la pop. Et donc là, c'était un disque plutôt folk, donc très différent de ses précédents albums. Et c'est un album surprise qui est sorti durant le confinement, donc en juin 2020, sans marketing, sans promotion, annoncé un jour avant sa sortie sur les réseaux sociaux. Et ça a été un immense succès. Il s'est vendu à 1,3 million d'exemplaires en 24 heures à travers le monde. Elle est devenue l'artiste féminine dont l'album a été le plus écouté en un jour sur Spotify. Donc on voit à travers tous ces chiffres qu'elle bat sans cesse en fait ses précédents records. Les critiques elles étaient très très positives. Et avant cela, donc son précédent album Lover, qui était sorti quelques mois plus tôt, il s'était vendu à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde en une semaine. Et Taylor Swift, si on veut replacer un peu dans les chiffres, c'est aussi la toute première artiste féminine, là en termes de prix, à avoir remporté 3 fois le Grammy de l'album de l'année. Et selon la British Phonographic Industry, qui est l'association interprofessionnelle de l'industrie britannique du disque, Taylor Swift, elle aurait déjà vendu donc en 2021, avant Midnight, 114 millions d'albums à travers le monde. Donc ça en dit beaucoup quand même sur son succès, sa popularité depuis ses débuts.
Vous voulez voir un vrai talent ? Vous allez voir ce que vous allez voir.
Je l'ai découvert avec le film Tous en scène. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec cette histoire avec des animaux et le musical. Et on avait la musique avec une cochonne qui dansait, c'était très drôle. Bon, je regardais ça avec mes enfants, bien évidemment. Comment est-ce que vous expliquez le succès de Taylor Swift ?
Tout d'abord, c'est une artiste qui est accomplie dans le sens où elle est auteure, compositrice et interprète, ce qui est assez rare dans le milieu de la pop. Donc, elle a une vision artistique globale et très claire sur ses albums, ce qui lui permet de pouvoir évoluer de la country à la pop sans perdre ce qui fait, on va dire, sa singularité. Et sa singularité, c'est pas vraiment le genre de musique qu'elle chante, c'est plutôt son très bon storytelling. Dans ses musiques, en gros, elle se livre un peu à la manière d'un journal intime, ce qui permet aux fans de se reconnaître en elle, d'y voir une proximité qu'ils n'ont pas forcément avec d'autres pop stars. Et donc, comme elle écrit toutes ses paroles, il y a une vraie authenticité qui ressort, qui est rare, comme je l'ai dit, dans le monde de la pop. Et une proximité qui va d'ailleurs plus loin, puisqu'elle interagit beaucoup avec son public. Elle organise des sessions d'écoute de ses albums chez elle. Elle dépose des cadeaux à ses fans à leur porte. Elle donne beaucoup d'indices sur ses prochains titres, sur ses prochains albums, sur les réseaux, dans ses vidéos. Du coup, c'est plein de clins d'œil que seuls ses fans peuvent comprendre et qui permettent vraiment de créer une communauté. Et à cela s'ajoute un véritable sens du marketing dans sa façon de jouer de son image médiatique, notamment la façon dont elle a géré le conflit avec Kanye West, de prendre du coup les critiques à son encontre pour les transformer en arguments commerciaux, ou bien de lancer par exemple des bras de fer avec les sites de streaming. Elle avait réussi à faire plier Apple Music à la suite d'une lettre ouverte sur Internet et à obtenir une meilleure rémunération des artistes. Donc déjà, un tour de force. Et après, elle est devenue ambassadrice de la marque à la pomme. Elle est devenue ambassadrice d'Apple. Donc c'est pour dire qu'elle a vraiment un véritable sens du marketing auquel s'ajoute le côté artistique où elle a un total contrôle sur les œuvres qu'elle propose.
«
Il y a un chiffre qui dit beaucoup du succès de l'interprète de Shake It Off et qui montre qu'elle en a dans le cerveau d'ailleurs. 300 millions de dollars, c'est la valeur de 6 albums de la chanteuse.
On connaît la valeur justement de ces albums parce qu'il y a eu une histoire de rachat de catalogue. Alors, en gros, en fait, en 2019, Scooter Braun, qui est le manager de Justin Bieber et d'Ariana Grande, en gros, a mis la main sur le catalogue de ses 6 premiers albums. Donc, ses disques Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 et Reputation. Et pour expliquer un peu l'historique, en gros, ces albums, ils ont été enregistrés chez le label Country, Big Machine, qui a signé Taylor Swift en 2005 lorsqu'elle avait 15 ans. Et en gros, en la signant, le label, il a acquis la propriété de ses masters, donc les enregistrements, ce qui est très courant, tandis qu'elle, elle reste détentrice des droits d'auteur en tant qu'auteur-compositrice. Donc, Big Machine avait par le passé proposé à Taylor Swift de lui transférer la propriété de ses vieux albums, mais à raison d'un ancien album par nouveau disque, produit au sein de la maison de disques. Donc, elle a refusé, elle est partie chez Universal. Et à ce moment-là, l'intégralité de son catalogue de l'époque a été vendue pour une somme énorme, donc 300 millions de dollars, sachant qu'il y avait d'autres albums, d'autres artistes, mais les 300 millions, c'est principalement quand même les disques de Taylor Swift qui ont été vendus à Scooter Braun, mais non sans éclat.
Oui, parce qu'effectivement, ce rachat lui était resté vraiment en travers de la gorge.
En fait, Scooter Braun, qui a racheté le catalogue, c'est loin d'être un inconnu pour Taylor Swift, c'est même l'une de ses bêtes noires. Elle l'a accusé par le passé de l'avoir harcelé sur les réseaux sociaux, en gros, via ses artistes. Et dans un communiqué à l'annonce du rachat, elle a expliqué en fait s'être sentie spoilée du travail de sa vie et que c'était pour elle vraiment le pire scénario, ce rachat par Scooter Braun. Donc va s'en suivre une véritable vague de critiques contre Scooter Braun de la part de personnalités de la musique qui vont le pousser en fait à vendre un an plus tard le catalogue pour le même montant à Shamrock Capital, qui est une société d'investissement à Los Angeles. Taylor Swift, elle n'était pas non plus au courant de ce deuxième rachat. Du coup, on l'a vu, elle est très forte en marketing. Elle a décidé de réenregistrer de son côté l'intégralité de ses 6 premiers albums, puisqu'elle en détient les droits d'auteur, donc elle peut le faire. Et ça a été un véritable succès d'un point de vue musical, puisque les 2 premiers albums réenregistrés, ils vont repasser numéro 1 aux États-Unis. Sachant qu'ils étaient déjà sortis il y a plusieurs années. Et par exemple, la chanson All Too Well, une chanson de 10 minutes, c'est devenu officiellement le hit numéro 1 le plus long de tous les temps. Et d'un point de vue marketing, c'était très intéressant aussi pour elle, puisque cela a permis de ressortir des t-shirts, des mugs à l'effigie de ses anciens albums. Et donc, ça montre bien toute la stratégie marketing qui s'orchestre aussi autour de ses réenregistrements.
All Too Well, trop bien en français, tout réussi à Taylor Swift. L'album Midnight, c'est un immense succès et l'artiste devait aussi partir en tournée américaine avec 52 concerts prévus. Mais tout ne se passe pas comme prévu pour Taylor Swift. La vente des billets des concerts est en train de tourner à la cacophonie. Que se passe-t-il ?
Ça a été un véritable chaos sur Internet. Je pense que même les personnes qui ne suivent pas Taylor Swift étaient au courant qu'elle avait une tournée en préparation avec toute cette histoire. Donc en gros, sa prochaine tournée qui s'appelle The Eras Tour, elle démarre le 18 mars prochain. Pour le moment, c'est que les dates du coup aux États-Unis. Et donc la chanteuse, elle a fait appel au géant Ticketmaster. C'est un géant du secteur de la vente de billets qui a fusionné avec le géant du divertissement Live Nation. Et en gros, donc ça faisait 4 ans que la chanteuse, elle n'était pas partie en tournée. Il y avait eu la période difficile du Covid, donc c'était un événement qui était vraiment très attendu par ses fans. En gros, il y avait la première étape qui était la prévente de billets, puis la vente générale qui était censée débuter quelques jours plus tard. Sauf que lors de la prévente, en fait, la demande, elle a été telle que les consommateurs, ils ont connu des attentes en ligne interminables, plusieurs heures pour espérer accéder aux billets et une flambée des prix qui faisait que certains billets s'envolaient à plus de 40 000 dollars. Il y a 2 millions de billets qui ont été vendus en une seule journée, en gros, ce qui a annulé la vente générale qui devait avoir lieu plusieurs jours plus tard et qui a aussi provoqué la colère de la chanteuse. Aux États-Unis, ce scandale, il a relancé le débat sur le monopole que possède aujourd'hui Ticketmaster sur la vente de billets, donc se caractérisant, comme on l'a vu, par la montée des tarifs, des frais cachés, une mauvaise gestion du trafic. Et il y a même des associations de protection des consommateurs qui sont montées au créneau et le Congrès américain qui a décidé de mettre en place un comité antitrust pour étudier très sérieusement la question du manque de concurrence dans le secteur de la billetterie. Donc ça a même dépassé Taylor Swift, cette histoire de vente pour sa tournée.
Ah justement, que répond Ticketmaster, violemment attaqué, vous le disiez, par l'artiste, mais aussi par des responsables politiques aux États-Unis.
Alors Ticketmaster, eux, ils expliquent qu'ils avaient mis plusieurs paliers de sécurité, comme la vérification des comptes fans, par exemple, mais ils assurent avoir été dépassés par le nombre vertigineux d'attaques de robots en ligne. En gros, le site affirme avoir reçu 3,5 milliards de requêtes en quelques heures, avec en plus 14 millions de personnes qui cherchaient à avoir des billets, donc soit de quoi remplir 900 stades, en gros. Pour eux, ce qui a été à l'origine des bugs que l'on connaît aujourd'hui, du coup, c'est vraiment cette demande inédite. Donc la société, elle affirme travailler sur une amélioration de son système en ligne pour que cela ne se reproduise plus. Mais bon, pas de quoi éteindre la polémique, puisque une flambée des prix avait déjà été observée quelques mois plus tôt avec la mise en vente des billets pour Bruce Springsteen. Donc, c'est pas un problème récent, mais c'est juste qu'avec Taylor Swift, du coup, ça a pris une ampleur sans précédent.
Cécilia, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, des Swifties, hein, c'est un nom que j'ai découvert en lisant une dépêche de Bloomberg. C'est le surnom donné aux fans de la pop star.
C'est un public qui est très fidèle hein, depuis de très nombreuses années. En fait, dans une industrie justement pop où la nouveauté, elle est constante, Taylor Swift, elle a vraiment su créer une communauté qui est prête à dépenser beaucoup, beaucoup d'argent pour la soutenir, que cela soit en termes d'albums, de tournées, de merchandising. On l'a vu avec tous les chiffres qui ont été cités plus haut. C'est vraiment, en plus, un soutien qui perdure même en temps de crise. Hein, parce que voir Taylor Swift en concert, c'est aujourd'hui perçu comme un événement de l'ordre de l'exception, de l'exceptionnel, pour lequel on est prêt à investir au-delà du raisonnable en termes de prix. C'est pas un simple concert, en gros, c'est une expérience. Enfin, en tout cas, c'est ce qui ressort avec cette tournée qui s'annonce aux États-Unis. Taylor Swift, en plus, elle a cultivé une image de pop star assez accessible, qui mise beaucoup sur l'autofiction, ce qui conduit aujourd'hui à ses fans à s'identifier, à la soutenir, parce qu'ils se retrouvent beaucoup en elle, quitte à racheter, par exemple, les réenregistrements de ses albums, alors qu'ils possèdent déjà le disque initial. Donc, il y a une vraie fidélité qui s'est créée depuis le début de sa carrière.
Taylor Swift a des problèmes de riche. En face, Kanye West, alias Yeezy, a des problèmes de pauvre, malgré ses 30 millions d'albums vendus dans le monde. Car la rentrée est difficile pour le rappeur prolifique et génial, artiste, producteur, créateur de mode, chercheur d'or, gold digger en anglais, il y a 13 ans, quand tout allait bien. Forbes l'a annoncé il y a quelques semaines, Kenny n'est plus un milliardaire. En cause, une polémique, une de plus.
En fait, tout a commencé, on peut dire qu'il y a eu un peu un tournant lors de la dernière Fashion Week. C'était le 3 octobre que Kanye West a présenté sa propre collection.
Virginie Jacoberger l'avouait est journaliste aux Échos. Elle suit notamment le monde du luxe et de la mode.
La 9e de Yeezy, sa marque, et ça provoquait un tollé à la Fashion Week parce qu'il y a eu l'apparition au final de t-shirts avec l'inscription « White Lives Matter » qui, bien évidemment, visait à minimiser le mouvement « Black Lives Matter ». Et comme Kanye West, après, a toujours tendance à forcer le trait, pour qu'il n'y ait aucune équivoque, il était même venu à ce défilé avec Candace Owens, qui est une figure ultra-droitière du Parti républicain. Et donc, le bad buzz a vraiment pris là. Les gens sont sortis de la salle. Il y a eu beaucoup d'articles dénonçant, bien évidemment, cette dérive-là. Semble-t-il, ce n'était pas assez pour Kanye West, puisque ça s'est pratiquement un mois après, donc à partir d'octobre. Il a multiplié les saillies antisémites sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, avec des tweets immondes qui ont été commentés. Et puis, il a été même interdit. Il a été finalement exclu de Twitter et d'Instagram. Et en fait, toute cette haine, elle n'était pas totalement nouvelle. En fait, il dérive depuis 2018. Il avait fait des propos complètement controversés sur l'esclavage où il considérait que les esclaves, ben, c'était plus ou moins de leur faute, ce qui est quand même totalement abject. Et en plus, surprenant, parce que Kanye West, donc lui, il est originaire de Chicago. Il a été élevé par une professeure d'anglais et un photoreporter qui était, lui, militant pour les Black Panthers. Donc, on sentait avec ses propos qu'il était depuis longtemps sur la corde raide. Et donc, c'est vraiment cette dernière polémique, les propos antisémites, qui ont entraîné la décision des marques de rompre tous les contrats avec l'artiste. Didn't you know I was waiting on you? My face turned to stone when I heard the news. When you decide to break the rules. 'Cause I just heard some real bad news.
Bad news au pluriel pour Kanye West qui multiplie les polémiques. Un cauchemar de la casquette aux sneakers avec comme principale conséquence la rupture de ses contrats avec Balenciaga mais aussi avec Adidas qui avait repris le partenariat que Kanye West alias Ye West avait signé un temps avec Nike. Mais l'artiste de 45 ans n'en était pas à sa première mésaventure dans les affaires. Il venait d'ailleurs de se fâcher avec le distributeur Gap.
Avec Gap, c'est vraiment Kanye West qui a pris en fait les devants. C'est-à-dire que dans le cas Adidas, Balenciaga, c'est vraiment Balenciaga qui a pris la décision de rompre le contrat. Et puis Adidas, ils ont été en fait tellement interpellés sur les réseaux sociaux en tant que marque allemande qui acceptait l'antisémitisme d'une figure avec qui ils étaient associés. Donc, ils ont été bien contraints aussi de rompre. Et il faut voir que économiquement, c'est quand même eux qui ont le plus à perdre, hein, parce que leur contrat était gigantesque. Avec Gap, on peut dire que c'est un autre cas de figure, puisque là, c'est vraiment Kanye West qui a pris les devants. C'est lui qui a mis fin unilatéralement à son partenariat avec Gap. Il a supprimé, en disant qu'il fallait supprimer des boutiques, toutes les collections. Alors, qu'est-ce qu'il leur reprochait ? Ben, alors, vraiment beaucoup, tout et son contraire, comme souvent avec lui, hein. Et en tout cas, il les a accusés d'espionnage industriel, de s'être servi de son nom, d'avoir copié des modèles. Et c'est allé au clash et ça s'est fini dans le bureau d'un avocat.
Oh my God !
Alors non, Kanye n'est pas mort car il bouge encore, mais entre Balenciaga, Gap, Adidas, les affaires se corsent, ça va lui coûter cher. Gap tablait par exemple sur un chiffre d'affaires annuel $1 milliard pour les seuls produits Yeezy d'ici 5 ans. Le partenariat avait d'ailleurs été signé pour une durée de 10 ans. Pendant que Taylor Swift s'enrichit, Virginie, lui, il s'appauvrit.
Sa fortune, en fait, elle a fondu avec les polémiques comme neige au soleil. Forbes l'a déclassée de la liste des milliardaires. Sa fortune était évaluée précédemment à $2 milliards et elle a dégringolé à environ $400 millions. Donc, on peut quand même dire qu'il est loin d'être pauvre. Après, tout dépendra. Il va avoir une série de procès. Tout dépendra aussi de ce qu'il fera de ses prochains investissements. Mais il y a tout ce qu'il a en perspective. Ça va être quand même la rupture de contrat et donc certainement des sommes faramineuses consacrées pour les deux parties aux avocats. Ça va être une bataille d'avocats, donc il va avoir ça avec Adidas, avec et on sait que de toute façon, lui-même, c'est bien pour ça que sa fortune a dégringolé comme cela, il était partie prenante et il a perdu beaucoup d'argent dans cette cause et c'est pas fini. Il est évident que la marque la plus touchée, c'est vraiment Adidas. Et lui aussi, puisqu'il était directement lié à cette marque. En fait, la griffe Yeezy, donc celle de Kanye West, elle a été valorisée en 2021 par UBS à $4.7 milliards. Et cette évaluation, elle se porte sur ses collaborations avec Gap et avec Adidas. C'est évidemment une perte colossal pour Adidas. Il faut savoir que ça représente à peu près 8% de ses revenus au groupe, à l'équipementier allemand. Et il faut savoir qu'en l'année dernière, puisque les analystes ne font pas encore le bilan de cette année qui a été complètement chaotique dans leur relation, mais en 2021, Kanye West a rapporté environ $1.8 milliard de ventes à Adidas. Vous imaginez un peu ce que c'est phénoménal. Et évidemment, lui toucher des royalties, c'était important pour son contrat, d'où la dégringolade financière qu'il a connue. À cela s'ajoute l'affaire de la JP Morgan Chase, donc qui était jusqu'ici la banque de Kanye West. Depuis ses saillies antisémites, ça a été une des premières entreprises qui vraiment a décidé, donc ils lui ont signifié qu'en fait, il devait transférer ses actifs et qu'il ne le voulait plus comme client. Donc, et d'ailleurs, lui s'est vraiment répandu sur tous les réseaux sociaux en expliquant à quel point c'était un complot contre lui, évidemment.
Kanye West, les connaisseurs disent de lui qu'il a influencé le rap comme peu d'autres. Il a aussi la bosse de la mode. Tant de talents gâchés. Virginie, qu'est-ce qui se passe avec l'ex-mari de Kim Kardashian ?
Écoutez, je ne suis pas psy, donc je me garderai d'un diagnostic. En tout cas, on le sait, hein, puisque lui-même l'a reconnu, il a été diagnostiqué bipolaire. Je trouve que quand même, dans les dérives récentes, on peut peut-être quand même pas chaque fois l'excuser de ses propos juste par le fait qu'il est malade et que lui explique qu'il ne veut pas se soigner. Et d'ailleurs, c'est tragique, mais peut-être qu'il n'a pas tort sur ce point de vue-là. Il dit que s'il se soigne avec des antidépresseurs qui sont quand même, on imagine, des doses de cheval, il n'aura plus cette créativité-là. C'est quand même ce qui fait... On voit que c'est aussi un artiste hypersensible. Donc, il est quand même sur un peu cette fracture. Alors, sans être psy, je trouve qu'il y a un aspect qui me semble très intéressant, parce que quand même, la famille Kardashian est quand même aussi très fascinante. Kim Kardashian, donc, n'arrête pas un peu de le rappeler à l'ordre. Ben, aujourd'hui, ils sont séparés et tout. Mais on voit, à mesure que lui a complètement dérivé vers, quand même, on ne peut pas dire autre chose, qu'il épouse les thèses des suprémacistes blancs aujourd'hui, américains. Et en parallèle, le clan Kardashian a fait exactement l'inverse. Il s'est vraiment normalisé par rapport à... C'était quand même une notoriété née d'une polémique. Hein. On sait qu'il y avait une sextape, etc. Tout ce clan Kardashian, qui effectivement est fort par les réseaux sociaux, se normalise quand même beaucoup, va au Met Gala et vraiment devenu... enfin, cautionne beaucoup aussi de créateurs dans la mode, a vraiment une position de plus en plus normalisée et qui est quand même un miroir un peu inversé. Je citais tout à l'heure Félix Aimé, qui est donc un étudiant qui a fait sa thèse à l'Institut français de la mode sur Kanye West. Je trouve qu'il souligne un aspect très intéressant. Et puis, il y a plusieurs années, il était quand même proche d'artistes engagés dans la défense de la communauté noire. Tous les artistes, au contraire, voulaient être auprès de lui. Il a été au premier défilé de Virgil Abloh, dont il était proche. Il a été proche de vraiment énormément d'artistes. Il est proche du créateur Demna de Balenciaga. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les gens se détournent de lui, mais ils sont aussi complètement affligés par la noirceur. Vous savez, il y a un des critiques de musique qui disait « Kanye West, si on laissait faire, il viendrait avec un costume d'Hitler sur le podium », à tel point... Ce critique disait que dans certaines manières de présenter enfin, sa musique, il y a quelque chose de très égocentrique, wagnérien, enfin, qu'il est dans un espèce de délire comme ça, et vraiment sur des positions totalement extrêmes. Et je pense qu'il est quand même complètement enfermé dans ce schéma. Et donc, le jeune étudiant que j'ai cité tout à l'heure, lui, l'a vraiment analysé comme un miroir de l'Amérique, qu'il a pris en fait complètement ce travers de la société. Et c'est vrai qu'il traduit quand même beaucoup de choses du malaise aujourd'hui de la société américaine.
Merci Cécilia Swifty Delporte et merci Virginie Jacoberger-Lavoué, journaliste aux Échos, pour ce destin croisé de deux stars de la musique et de la mode. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez écouter la story entre deux morceaux de musique sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict ou encore Castbox. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.